et vous serez tranquille pendant les 6 prochains mois. Enfin, j'espère. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ça me manquait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous appréciez la présence du culte le dimanche, et pas seulement le dimanche, mais la semaine. On a eu l'occasion de voir les uns et les autres, mais c'était chouette. Alors on s'est dit avec les anciens, ce serait bien comme c'est la tradition humaine, entre guillemets, de donner nos vœux à nos membres et aux gens qui viennent régulièrement à l'église. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous lire quelque part les vœux des anciens, et on va élargir à toute l'équipe de l'église, de l'EIG. Donc ce sera les diacres avec nous. Alors, nous vous bénissons, parce que la Bible nous encourage à bénir et non à maudire. Donc nous vous bénissons et prions, comme l'apôtre Jean dans sa troisième lettre. Si vous lisez 3 Jean verset 2, vous allez découvrir que Jean bénit aussi Gaius, donc c'est la personne à qui il envoie la lettre. Et donc nous faisons la même chose, nous prions pour que votre âme prospère autant que votre santé physique et matérielle. On prie également que votre espérance soit nourrie et orientée dans la bonne direction, et surtout sur la bonne personne. En 2022, le seul qui peut ôter nos craintes, notre peur de mourir, nos angoisses existentielles, et les remplacer par une paix, une joie durable et une ferme assurance, ce n'est pas le vaccin miracle, mais c'est Jésus. Lui, il est éternel, tout-puissant, invariable, inaltérable, inattaquable, incorruptible et immortel. Le seul qui peut combler durablement vos besoins matériels, ce n'est pas votre compte en banque, ce n'est pas votre employeur, ou même votre travail, car toutes ces choses, vous pouvez les perdre. Mais Jésus, c'est le seul qui peut prendre soin de vous, et il l'a promis de le faire à chaque instant. Il a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Le seul qui peut combler durablement vos besoins affectifs, ce n'est pas votre conjoint, ce ne sont pas vos enfants, votre famille, vos amis, l'église ou même votre pasteur. Car aucun d'eux n'est parfait, et ils vous décevront un jour ou l'autre. Mais le seul qui peut combler cela, c'est Jésus. Parce que lui, il demeure fidèle, il est invariable, incommensurable, inaltérable, etc. Chose que nous ne sommes pas. Finalement, pour 2022, nous vous souhaitons plus de Jésus et moins de tout le reste. Plus de Bible et moins de réseaux sociaux. Plus de communion fraternelle et moins de séries télé. Plus de prières et moins d'inquiétudes. Plus de communion avec Dieu et moins de communion avec vous-même. Voilà, je termine ici les vœux et je vais transiter directement avec mon message. Alors ce matin, on poursuit une série qu'on a commencée au mois de novembre sur le livre des Actes des Apôtres. Et si vous vous souvenez de cette série, c'est bien mieux qu'une série Netflix. Et c'est ce que j'espère, en tout cas, que vous allez considérer au fur et à mesure qu'on avance dans cette série. Et bien que c'est mieux que les séries qu'on peut trouver à la télé, parce que c'est des histoires vraies. Ce qu'on raconte, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce sont des histoires qui ont réellement été vécues par ceux sur lesquels on parle, et je pense que ça a beaucoup plus d'intérêt. Moi, j'aime, si je regarde une série ou un film à la télé, vous pouvez sélectionner maintenant les histoires vraies ou des histoires vécues faites à partir de récits. Et donc, je préfère largement ces histoires-là à tous les contes de fées qu'on nous balance à longueur de journée. Alors, on va poursuivre une tradition ce matin. Et ce mot-là n'est pas très évangélique, on ne l'aime pas en général, le mot tradition. Pourtant, il y a des traditions qui sont bonnes, et il y a même des liturgies, et je ne sais pas si vous avez observé, mais on fait quasiment tout le temps la même liturgie. On accueille, ensuite on va lire un petit verset ou lire un passage, on va le méditer, nourrir un petit peu notre adoration par des chants, Et puis après, on fait un temps d'annonce, et puis on refait deux chants, et puis on fait un message. Et ça, ça s'appelle une liturgie, tout simplement. Et c'est pas mauvais. Simplement, c'est pas ça qui doit nous motiver. Vous voyez, on peut la changer, cette liturgie. Mais il y a des éléments centraux qui doivent rester. Et l'un des éléments centraux, au-delà de l'édification par les chants, bah, c'est la parole de Dieu. Et avec les anciens, et puis je peux dire avec Jésus et les apôtres, eh bien, on affirme que la Bible est la source de notre salut. C'est elle qui nous indique le chemin à suivre pour aller au ciel, pour rejoindre le Père Céleste. Et en fait, toute la Bible, si vous lisez les textes, et notamment l'évangile de Luc, à la fin, dans le chapitre 24, Jésus explique tout ce qu'il concernait dans les Écritures. Ça veut dire que quasiment toute la Bible pointe vers Jésus. Et donc, on est convaincu avec les anciens qu'on doit enseigner la Bible pour cela, parce qu'elle est la source de notre salut. Mais on est convaincu également que la Bible est inspirée de Dieu, totalement inspirée de Dieu, et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour nous instruire et nous permettre de faire de bonnes œuvres, des œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Avec Jésus, les apôtres et les anciens, nous affirmons que la Bible est le manuel du constructeur, le livre de celui qui nous a conçus dans le moindre détail et qui sait le mieux ce dont nous avons besoin. Qui connaît mieux une montre, je ne vais pas citer de marque, mais qui connaît mieux une montre que le créateur, que l'horloger qui l'a conçue? C'est évidemment un horloger, ce n'est pas un mécanicien auto, on est d'accord. Eh bien, qui connaît mieux l'homme que son créateur? Et donc c'est pour ça qu'on sait que tout ce qu'il y a dans ce texte, hein, ici, moi je l'ai ici en version papier, vous l'avez probablement, je vous encourage, si vous n'avez pas encore de version papier mais que vous l'avez sur votre smartphone, à vous en approprier une en version papier. Ça fait quelques années maintenant que je la lis dans version numérique, et bien je suis revenu à la version papier parce que j'ai beau souligner, on peut faire beaucoup de choses, hein, on peut copier les textes, et bien je ne mémorise plus de la même manière, j'ai perdu mon repère spatial. Vous voyez, quand vous prenez ma Bible, c'est bariolé de couleurs, j'ai des repères, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais ça, et j'ai un petit truc thématique, et ça me permet de faire des études bibliques en quelques secondes, parce que j'ai repéré par les couleurs, et donc je fais passer mes pages, et je repère les thématiques qui sont abordées. C'est une petite astuce, mais ça va bien avec le message qui va aller aujourd'hui, parce qu'on va parler de ce que j'ai fait quasiment dans les premiers jours, les premières semaines, avec Florent Varac, quand je me suis converti. Il m'a donné cette astuce, il m'a acheté une boîte de crayons que j'ai encore. Alors, c'est pas la même, hein, les crayons, ils ont été usés depuis, mais une petite boîte de crayons, toute simple. Mais grâce à ça, j'ai pu devenir pasteur aujourd'hui. Alors, ce n'est pas grâce au crayon, hein, je vous rassure, mais ça a été un des outils qui m'a permis. Et donc, une petite carte postale qui a un peu vieilli, vous voyez, elle a 25 ans, elle traîne dans ma Bible depuis longtemps, mais le texte est resté, les couleurs sont là, je la garde. Alors, ça peut disparaître, hein. C'est pas sacro-saint, mais quand même, c'est important pour moi et ça me rappelle mes premières heures de vol avec le Seigneur et les heures où j'ai commencé à étudier la Bible et à étudier son message. Pourquoi je vous dis tout ça ce matin? Parce que on va aborder un texte qui fait suite à la conversion. On a, si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a abordé le livre des Actes, on était dans le chapitre 2 et on a dû lire les versets 25 à 41. Et là, on voit un discours de Pierre, une prédication, la prédication que tous les jeunes pasteurs rêvent de faire. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y a eu 3000 convertis. Waouh! Ça, c'est de la prédication, surtout que c'était sa première. S'imaginer, le petit débutant, là, tous ceux, hein, je te vois Marcel au deuxième rang, mais tous ceux qui ont suivi la formation à la prédication, première prédication, Marcel monte en chair, 3000 convertis. Tu serais content, je pense. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand il y a 3000 personnes qui se convertissent, eh bien, les amis, c'est une patate chaude qu'on nous livre. Qu'est-ce qu'on fait de ces convertis? Sachant qu'ils sont là de passage. Hein, c'était des juifs qui étaient venus pendant la Pentecôte, pour la fête de Pentecôte, qui était venue de plein de nations différentes, des pays alentours. Et ils sont venus pour fêter la Pentecôte avec les autres juifs de Jérusalem, et ils étaient au temple. Et donc ils sont venus en masse, et ils se convertissent. Si vous êtes là, si on était les seuls chrétiens de la planète, première église, EIG, on démarre, 3000 personnes se convertissent, qu'est-ce qu'on fait? Patate chaude. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors bon, on n'a pas d'apôtres chez nous, on a des gens qui connaissent la Bible, mais il y avait 12 apôtres. 12 personnes qui ont vécu 24 heures sur 24 avec Jésus. Et donc, quelque part, je pense qu'ils avaient une petite idée de ce qu'ils devaient faire. Mais vous savez ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils ont appliqué le plan que Dieu leur a donné, que Jésus leur a donné, quelques instants avant son départ. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, juste avant qu'il monte au ciel? Allez, je vous ai aidé là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le commandement. L'impératif est sur le fait de faire des disciples. Comment? En les baptisant et en leur les instruisant, voilà, les enseignant à obéir. Et ça s'appelle du discipulat. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est à la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit qui descend, il y a des miracles qui ont lieu, et puis Pierre se lève et il va prêcher l'Évangile. Et il va prêcher l'Évangile aux Juifs, il va leur rappeler que ce Jésus qu'ils ont crucifié, et c'est violent hein, ce qu'il dit, le Jésus qu'ils ont crucifié, c'est le Messie qui était promis dans les Écritures. Et là, le message va être tellement persuasif, bien sûr il y a le Saint-Esprit qui est derrière qui va convaincre, qu'ils vont se tourner vers Dieu, repentant. Ils vont reconnaître qu'ils ont eux-mêmes crucifié Jésus-Christ. Et donc, devant ce constat-là, ils vont demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, première chose qu'il fait, il prend Matthieu 28, les apôtres prennent Matthieu 28, ils les baptisent. Hein. Faites de toutes les nations des disciples, comment? Les baptisant et ensuite les enseignant. Donc la question de l'annonce de l'évangile, c'est fait. La question d'amener une personne à la foi, c'est fait. La question du baptême, c'est fait. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, c'est l'étape d'après, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais prendre la petite télécommande, j'espère que ça fonctionne, et on va regarder. Alors, ça ne marche pas, si tu peux me donner la main. Donc, la dernière fois, on avait vu... Voilà. On avait vu toutes ces étapes de la prédication, donc c'était des versets 22 à 41. On avait vu ces six étapes, et finalement, aujourd'hui, c'est la septième étape, d'accord? Et donc, on va lire le texte, et on va en tirer quelques applications concrètes pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Alors, lisons ce texte, et je voudrais vous inviter à vous lever. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je vous invite à vous lever par respect pour ce texte qui nous a été légué depuis plus de 2000 ans. D'accord? Parce que ce texte est inspiré par Dieu. Je lis Acte 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous pouvez prendre place. Parce que maintenant, tout ce que je vais dire, vous devez le prendre et le filtrer. D'accord ? Parce que je peux rajouter des bêtises. Alors j'ai prié, j'ai mis beaucoup d'heures cette semaine à essayer de préparer ce message, mais rien, enfin je suis faillible. Donc je vous invite à pas remettre en question tout ce que je dis, mais simplement à pas le prendre comme argent comptant. Ok, il a dit quelque chose, c'est super pertinent, ça l'est un peu moins, ça me touche pas. Et laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Ne soyez pas sur vos gardes, c'est pas ce que je veux dire. Hein, laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit, et peut-être que ce matin, le Seigneur va vous parler au travers d'une illustration, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis convaincu que si on enseigne la parole de Dieu, verset par verset, jour après jour, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça change notre cœur. Ça change notre cœur. Mais, il n'y a pas que ça, on va le voir maintenant. Vous savez que le verset 42... que vous connaissez probablement par cœur, eh bien, dans ce verset 42, Luc va résumer les activités qu'il va développer dans les autres versets. Du coup, il a fait mon plan. C'est très facile ce matin. Il fait un plan de son message et il développe ensuite. Donc, ben moi, j'ai 4 points ce matin. Je pense que vous avez deviné quels sont ces points. C'est pas compliqué, n'est-ce pas ? Et donc... C'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir que si le texte est un texte ici narratif, d'accord ? On sait qu'un texte narratif, on ne doit pas l'appliquer textuellement parce qu'il a été écrit pour des gens dans un contexte particulier et qui ne fait que décrire une situation. D'accord ? Cela dit, ce n'est pas parce qu'un texte est narratif qu'on ne doit pas tirer de ce texte des principes. Surtout s'ils sont repris ailleurs dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est la vie d'une église totalement ordinaire, et j'allais dire la vie de disciples, tout jeunes bébés dans la foi. Donc ce matin, c'est un texte qui s'adresse aux bébés dans la foi. D'accord ? Parce qu'on va voir le béaba de la vie chrétienne. Mais je pense... pour l'avoir étudié cette semaine, que même si ça fait des années que vous êtes avec le Seigneur, vous aurez probablement des choses à entendre, à corriger, et peut-être que vous allez prendre quelques baffes. J'en ai pris, donc je vous les reverse gracieusement. Ce matin, j'ai intitulé le message « 4 activités ou 4 disciplines indispensable, essentiel qu'un disciple devrait vivre après sa conversion. » Parce que c'est vraiment ça le contexte. Hein, on voit ces gens qui se convertissent, et donc Luc ne fait que décrire ce qu'ils ont fait après. D'accord ? Donc on n'est pas en train de parler de leader d'église ici. On ne parle pas de la formation des cadres, des anciens. Là, on a Tite, on a 1 Timothée 3, on a d'autres textes pour ça. Mais ici, on parle clairement des disciplines qu'on doit mettre en place et que les apôtres vont mettre en place dans ces 3000 personnes. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'important parce que, en fait, si vous vous souvenez, les apôtres avaient été recalés à leur bac. Pourquoi je dis ça ? Parce que les apôtres, c'était un peu des étudiants qui avaient eu leur partiel à la croix. D'accord ? Épreuve. Ils l'ont raté, ils se sont tous tirés, ils ont rendu une feuille blanche. Il n'y a plus personne. Jésus, sur la croix, plus personne. Et quelques jours après, au moment de la résurrection, là, ça change tout. Et là, c'est une autre épreuve, et celle-là, ils vont la réussir. Et donc, on a affaire à des étudiants qui sortent avec leurs diplômes ou leurs épreuves en poche, quelque part. C'est éprouvé, ok, il y a le sceau. Ils ont le Saint-Esprit, on vient de le voir, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et donc, ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont essayer d'appliquer tout simplement ce que Jésus leur a légué en Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples ». Ils ont enseigné l'Évangile, ils ont amené ces gens à la repentance et à la foi, ils les ont baptisés, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Et donc, 4 disciplines que nous trouvons ici, ces 4 disciplines, c'est tout bête, elles sont liées totalement à l'Évangile. Première discipline, l'enseignement des apôtres. Ça, c'est l'Évangile expliqué. Hein, c'est l'Évangile parlé, c'est la parole. Il y a la communion fraternelle. Ça, c'est l'Évangile incarné. Ce n'est pas le tout d'entendre la parole de Dieu, mais à un moment donné, il faut l'appliquer. Et c'est le but. Hein, c'est le but. le principal reproche que Jésus fait aux pharisiens, faites ce qu'ils disent, donc ils enseignaient des choses à peu près correctes, mais pas ce qu'ils font. Ils vous demandent de faire des choses qui ne touchent même pas de leurs petits doigts. Ils imposaient aux autres des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire eux-mêmes. Et ce n'est pas mon but ce matin, d'accord ? Donc on va essayer d'être plein de grâce. Mais vous allez voir que ces quatre disciplines, finalement, même si c'est pour les jeunes convertis, elles nous concernent tous. Tous, et les anciens comme les débutants. Donc la communion fraternelle, c'est l'évangile incarné. Ensuite, quatrième discipline, la fraction du pain. En fait, ça, c'est l'évangile rappelé. C'est le souvenir, parce que la fraction du pain, c'est la Sainte Cène, en fait. Tout simplement. On rompait le pain, donc fraction du pain. Et quatrième discipline, la prière. Et bon, là, je ne savais pas trop comment l'appeler, mais c'est l'évangile cru. Hein, c'est la foi qui va se manifester, parce que si vous n'avez pas la foi, en général, vous ne priez pas. Et on va regarder ça un petit peu dans le détail. Et ça permet de faire un petit check-up en ce début d'année, parce qu'on a fait un petit bilan sur ce qui s'est passé. Et puis peut-être que ce matin, on va pouvoir se dire, ok, hein, c'est le moment des bonnes résolutions, il me semble. C'est le premier message en live de l'année, et donc ça sera peut-être le moment de recadrer et de refixer nos priorités pour que justement on puisse durer dans le temps et persévérer. C'est le mot que Luc utilise ici, le mot persévérance. C'est un mot qui n'est pas très tendance aujourd'hui dans une société où finalement on a tendance à zapper en permanence. On saute d'une activité à l'autre, d'une application à l'autre, d'une série à l'autre. On en finit une, vous voyez, on persévère pas. Je vois beaucoup d'enfants aujourd'hui qui zappent d'un sport à l'autre. Même de mon temps, il y a une quarantaine d'années, quand j'ai commencé le foot, moi j'ai fait que du foot pendant 20 ans de ma vie, peut-être un peu plus. Ouais, 30 ans en fait. Et je suis passé à un autre sport. Mais vous voyez, quand vous allez à Décathlon, les amis, si vous vous arrêtez dans chaque rayon, que vous voulez acheter chaque chose, vous allez faire, il vous faut 3 vies en fait, voire 10, si vous faites que ça. Si vous voulez faire tous les sports. Et ça, c'est que les sports. Je n'ai pas parlé de toutes les autres opportunités que vous pouvez avoir dans la vie. Il y a plein d'autres choses. Et en fait, on est mais submergé par ces choses-là. Et donc, finalement, il y a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi choisir. Et donc, on zappe. Tic, tic. Ah bah tiens, on entend un qui nous dit « Ah, ça, c'était génial. Ah bah tiens, je vais aller là. Oh, puis on peut faire des voyages. Ah bah tiens, je vais aller dans tel pays. » Bah, vous pouvez y aller, il y en a quelques milliers de pays. Hein. En fait, on est dans une société où on nous offre tellement de choses qu'on ne sait plus trier. Et donc, on zappe en permanence, et on ne persévère plus. Et donc, je pense que s'il y a un enseignement important à retenir aujourd'hui, c'est la persévérance, d'accord ? C'est-à-dire l'endurance. Hein, ça veut dire renoncer à certaines choses, mettre des priorités et les maintenir en place dans notre vie, même s'il y a des bonnes choses autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut se cloîtrer et ne faire qu'une activité, mais c'est, voilà, il y a des activités essentielles, et ce matin, on va en décrire quatre, les amis. Mettez-les en place dans votre vie, disciplinez-vous pour qu'elles y soient installées durablement. Vous savez, il faut six semaines à une habitude pour qu'elle reste en place dans notre vie. Donc si vous arrivez pendant 6 semaines à mettre ces 4 disciplines en place dans votre vie, elles vont durer dans le temps. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Et si vous n'y arrivez toujours pas, eh bien, on a une église. Et donc, on peut s'entraider les uns les autres, et je vais vous donner quelques petites pistes par rapport à ça. Première discipline, les amis, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Persévérance dans l'enseignement des apôtres. En fait, les disciples, ils ne persévéraient pas simplement dans l'écoute, mais le but, c'était de prendre les choses, de les entendre, de les écouter, de les digérer pour mieux les appliquer. C'est le but, hein. Si vous écoutez la Bible, que vous faites des études bibliques, vous faites 10 années de théologie, mais qu'à un moment donné, vous ne le mettez pas en pratique, ça ne vous sert à rien. Rappelez-vous de ce que disait Jésus. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, nous on connaît la Bible, on peut même prophétiser, c'est-à-dire qu'on peut annoncer la parole. » Non, non, ce n'est pas cela. C'est ceux qui appliquent la parole, d'accord ? Et je pense qu'un chrétien, ce n'est pas simplement un apprenant, c'est un appliquant. Vous voyez ? On est des disciples, autrement dit des apprentis, et un apprenti, ça a une base théorique, mais en même temps, il l'applique direct. Vous voyez, je pense qu'en Suisse, vous êtes beaucoup plus fin dans votre analyse que les Français, où on fait 10 années d'études. Moi, j'ai fait 5 années d'études après le bac. Je suis arrivé dans l'industrie, on m'a posé derrière un bureau, on m'a dit, bah, écoute, tu vas encore attendre quelques mois, parce que tu sors de l'école, tu ne sais rien faire. Ah bon ? J'ai étudié pendant 5 ans après le bac un métier et on me dit que je ne sais rien faire. Bah oui. Vu de l'extérieur, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'on nous a brûlé le crâne avec beaucoup de théories et qu'on ne l'a jamais appliqué réellement, en fait. Alors que finalement, dans la foi, dans l'évangile, c'est ce qu'on connaît, on l'applique et on le transmet. Ce qu'on connaît, on l'apprend, on le médite, on le digère et on le transmet. Et ça, ça doit être un cycle, les amis. Parce que si vous voulez retenir les choses, si vous voulez les mémoriser, eh bien là aussi, alors ça c'est les jésuites qui disaient ça, mais il faut l'avoir manipulé 7 fois. Donc vous voyez, 6 semaines pour qu'une habitude s'installe, 7, brasser 7 fois la chose ou l'enseigner 7 fois, et après, elle est gravée dans votre tête. Donc quand vous avez une leçon pour les enfants, si vous enseignez à l'école du dimanche, dites-vous que si vous la faites 7 fois, vous la connaissez par cœur. C'est génial quelque part. Dieu nous a donné en nous une capacité à retenir, mais c'est parce qu'on passe par la transmission. Si vous ne faites que garder pour vous sans le transmettre aux autres, vous allez l'oublier très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ces disciples ? Eh bien, ils étaient disciplinés. Regardez ce qui se passe au verset 46. Ils persévéraient dans l'enseignement, comment ? Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Au temple, on y allait pour 2 choses. La lecture de la Torah, l'explication de la Torah, les maîtres, les rabbins étaient là pour expliquer l'écriture. Bon, là, il y avait les apôtres, donc voilà, ça, c'était les nouveaux rabbins. Et puis, on y allait pour prier. Donc là, le temple, quand ils allaient au temple, ils faisaient ces 2 activités, en fait. Alors, ils priaient, mais ils chantaient aussi. Et puis, vous savez que chez les Juifs, le chant fait partie des prières. Hein, quand on chantait les psaumes, c'est aussi comme ça qu'ils les mémorisaient. Et donc, pourquoi ils allaient chaque jour au temple, à votre avis ? C'était des Juifs, ils connaissaient la Torah. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de savoir ? Ils connaissaient tout, non ? Eh bien, ces Juifs qui étaient pourtant instruits de la Bible, ils venaient religieusement peut-être. Alors, est-ce qu'ils avaient été vraiment instruits ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient besoin de l'enseignement des apôtres. Pourquoi ? Ben parce que le Messie était prévu pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël l'a rejeté. On est dans cette période. La plupart des Juifs, beaucoup de Juifs en tout cas, ont rejeté le Messie, n'ont pas voulu suivre le Messie. Et ce qui s'est passé, c'est que comme le Messie a été refusé, a été rejeté, eh bien c'était prévu, hein, mais Jésus, il a ouvert l'évangile à tout le monde, à toutes les nations. D'accord ? Donc avant, c'était limité et réservé à un peuple, une nation, une loi. Vous voyez, il y avait des privilèges dans ce peuple. Eh bien là, maintenant, vous avez refusé le Messie, eh bien ça sera ouvert à tous. Donc il y avait des règles qui étaient en place, il y avait des régimes alimentaires. Toutes ces choses-là vont devenir obsolètes. Mais il faut leur expliquer, parce que du jour au lendemain, on passe d'un repas cachère à pouvoir manger de tout. Vous voyez ? Alors on n'en est pas encore là. Mais parce que même les apôtres n'étaient pas clairs. Hein, il va falloir arriver au chapitre 15 pour qu'on comprenne comment ça marche. Donc là, c'est un petit teaser pour la suite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les sacrifices, par exemple. Est-ce qu'on a encore besoin de faire des sacrifices au temple ? Parce que le temple était encore là, il y avait encore des animaux. On venait de sacrifier des animaux. Est-ce qu'il fallait continuer ? Alors que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ça veut dire que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. Et là, ils avaient besoin d'être enseignés. Si Jésus est ressuscité, les amis, on n'a plus besoin d'avoir toutes ces règles cultuelles. Donc tout ça, ça va devenir obsolète. Mais voyez, on passe de tout à rien. Et donc c'est une période de transition, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'enseignement, et qu'ils posaient des questions probablement aux apôtres. Et donc ils y allaient tous les jours. Tous les jours, ils étaient au temple et ils posaient des questions, et on voit que c'était vraiment important. En regardant la ferveur de ses disciples, moi, je me suis dit qu'on était des grands privilégiés. Parce qu'eux, ils étaient obligés d'aller au temple, de se déplacer et d'y aller tous les jours. Nous, aujourd'hui, on a la même parole, hein, c'est la même, elle est là. Elle est rassemblée, alors que là, à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, c'était en cours de rédaction. D'ailleurs, tous les discours qu'on a, ça va être gravé là-dedans. Aujourd'hui, c'est imprimé. Ce n'est pas des grands rouleaux qu'on déplaçait, donc c'était une portion de livre. À Ésaïe, il y avait deux rouleaux, donc vous voyez, c'est des gros rouleaux, des parchemins qui étaient roulés, qu'on déroulait. Il n'y en avait qu'un qui pouvait lire, et il n'y avait qu'un exemplaire pour toute l'assemblée. Nous, on a le privilège de pouvoir l'avoir chez nous, à la maison. Cette Bible, elle a plus de 25 ans, et je peux la trimballer partout. D'ailleurs, elle a bien reçu, hein, si vous regardez ma Bible, elle est un peu scotchée de partout. Mais du coup, j'ai mis une enveloppe pour la protéger, pour la préserver le plus longtemps possible. Parce qu'elle est précieuse, les amis. J'ai tous mes repères dedans. Ce que je vous disais, j'ai fait comme ses disciples. Tous les jours, tous les matins, j'allais au temple. Le temple, il était là, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, on est d'accord. Mais tous les matins, j'étais avec Dieu. C'est un privilège immense qu'on a. On n'a pas besoin de se déplacer, il est avec nous. Puis alors, si vous avez un smartphone... Les amis, j'ai au moins 10 versions de Bible là-dedans, et comme j'ai accès à Internet, je peux en avoir 150. En multilangue, grosseur du texte, version choisie, c'est hallucinant, cette capacité. Tablette, ordinateur, logiciel, application, en fait, on a une facilité énorme à pouvoir accéder à ce texte. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez qu'il y a une application que j'ai découvert pendant les vacances, là, que tout le monde a dans son téléphone. Vous allez dans les propriétés, là, je le fais en direct. Vous allez dans les propriétés, et puis il y a un endroit, c'est marqué « Bien-être numérique et contrôle parental ». D'accord ? Faites un petit essai, pas maintenant, pendant le culte, mais vous regarderez ça quand vous rentrez à la maison, « Bien-être numérique », et puis là, bah, vous avez un petit tableau qui s'affiche et qui vous montre le temps que vous avez consacré, et vous pouvez le faire en cliquant dessus, vous avez toute la semaine, et puis vous pouvez remonter aux semaines d'avant, et vous savez le nombre d'heures que vous passez déjà sur votre téléphone. Alors aujourd'hui, j'ai zéro. Ok, je n'ai pas été sur mon téléphone. Si, en réalité, il y a eu 28 minutes, et donc je trouvais une solution pour avoir mon message, parce que j'avais plus de batterie. Donc j'ai dû prendre mon téléphone et être sur WhatsApp, et donc ça me l'indique ici, temps sur WhatsApp, 4 minutes. Oui. Donc je sais exactement le temps que j'ai passé. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez regarder le soir pour voir le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le téléphone. Alors je dis, il y en a qui l'utilisent professionnellement, donc là c'est faussé, on est d'accord. Mais pour vous qui avez un téléphone pour le loisir ou juste pour la communication, regardez le temps que vous y passez. Et puis comme ça, ben, vous pourrez voir si vous êtes un disciple ou pas. Combien de temps vous passez dans la parole de Dieu ? Et là, ça va vous faire peur. Hein. Ça va vous faire peur. Mais au moins, vous êtes face à la réalité là. Là, ça ne trompe pas. Et ça ne sera que votre téléphone. Parce qu'il y en a qui laissent leur téléphone et qui font plein d'autres loisirs ailleurs. Donc vous voyez, donc, le but c'est que vous réalisiez et que vous mettiez les bonnes priorités au bon endroit. Et la première des priorités, c'est là. Parole de Dieu, et donc persévérer là-dedans. Les amis, c'est pas simple, parce que c'est vrai que parfois le texte, on est lointain. Moi, je lisais récemment l'Ancien Testament, quand on est dans les Nombres, les Lévitiques, faut s'accrocher, et puis des fois je saute. Quand il y a des généalogies avec des prénoms à coucher dehors, je les laisse coucher dehors, et puis je saute. Bon, ça va pas changer ma vie, mais quand même, vous voyez, et donc la parole de Dieu, elle est là. Elle est pour notre instruction, elle est utile. La Bible nous dit qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger. Et c'est un miroir, cette parole-là. Donc, si on n'y vient jamais, on sera moche. Ça permet de te regarder et puis de te dire, « Oh, voilà, là je ne ressemble plus à rien. » Vous voyez ? Quelque part, elle te renvoie l'image de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Et donc, elle va t'aider. Alors, vous savez que ce texte a été utilisé par les évangéliques pour mettre en place ce qu'on appelle le culte personnel. Donc vous voyez ce que c'est. Culte personnel, ça vous dit quelque chose. La plupart des évangéliques ont dit, voilà, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc individuellement, nous, on va le faire, et c'est pour ça qu'on a tous une Bible, etc. Et ça, c'est super. Mais Il y en a d'autres qui insistent davantage sur le côté, et il faut regarder la phrase en entier. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et on voit, ils étaient au temple d'un commun accord. Et j'ai certains frères, dont Raphaël Hanzenberger, qui va venir nous enseigner la semaine prochaine, qui lui met l'accent sur le côté communautaire, la lecture et la dévotion en communauté. Et en fait, il est tellement convaincu que quand il a implanté son église à Loche, il a mis ça comme habitude dans l'église. D'accord ? Lui, il va appeler ça un habitus. Il a créé un habitus. C'est-à-dire que le matin, avant de partir au travail, les frères et les sœurs se rejoignaient dans un local. Alors, Loche est une petite ville. Ils avaient loué un bâtiment en plein cœur de la ville. Et donc, la plupart des gens habitaient dans le même quartier. Le matin, avant de partir au travail, ils allaient lire ensemble et prier pour leur journée. Et le soir, c'était pas fini, parce que le soir, l'habitude, c'était de revenir en sortant du travail, de partager ce qu'ils avaient vécu et de voir comment le Seigneur avait répondu à leur prière. Alors vous vous dites, waouh, c'est génial. Est-ce qu'on va faire ça à l'EIG? Pourquoi pas? On lui posera la question, comment on fait? Vous, les Sanchez, par exemple. C'est un peu compliqué. On a Zoom, effectivement. Mais là, le fait d'être ensemble, vous voyez, c'est le côté d'être ensemble. Alors oui, Zoom, c'est un palliatif, on va dire. Hein ? On va dire que c'est un générique. Mais le mieux, c'est d'être ensemble. Et il a raison. Tout le texte qu'on a lu ce matin, la communion fraternelle est centrale. Et donc, le culte personnel, où là c'est la dévotion, la discipline, l'enseignement de la parole, et le reste, eh bien on le fait ensemble. Et vous voyez, il met l'accent là-dessus, et effectivement l'idéal ce serait quand même ça. Alors on voit que ça va être compliqué à mettre en pratique, parce qu'on habite tous dans des lieux différents, mais l'idéal ce serait ça. Alors, est-ce que les 3000 se faisaient les mêmes choses ensemble, tous ensemble? Eh bien je ne pense pas. Et on va regarder dans le point d'après, on va voir qu'ils se divisaient, quelque part. Parce qu'une grande classe de 3000 et un culte à 3000, vous avez vu à 50 l'organisation que c'est, quand on est 3000, les amis, c'est autre chose. On est dans une autre dimension. Je suis allé à la porte ouverte de Mulhouse, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont payés pour l'organisation. Il y en a qui font le parking. Enfin, 3000 personnes, c'est énorme. C'est un énorme supermarché qu'ils ont racheté. Et donc, ils ont investi ce lieu-là, mais je peux vous assurer que les 3000... Ça, c'est le dimanche, une fois par semaine. Ils ne viennent pas tous les jours. D'accord ? Donc, le texte dit que tous ensemble, ils étaient au temple, mais probablement qu'il y en a qui travaillaient, qui partaient au boulot, et donc ils n'étaient pas avec les autres, mais ils se retrouvaient ailleurs. Et on va découvrir ça. Je vous laisse un petit peu de suspense pour la suite. Alors, il y a une attitude par rapport à ce texte et par rapport à cette parole. Elle nous est donnée juste après, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. La crainte. Ici, on voit que Luc lit la crainte et les miracles. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette crainte ? Alors, la crainte, ce n'est pas la peur. Bibliquement, la crainte, elle est liée au respect. D'accord ? C'est être révérencieux. Ce qu'on a fait ce matin avec la Bible, je vous ai demandé quoi ? De vous lever. C'est ce que faisaient les Juifs. Quand on lisait la Torah, les gens se levaient. C'était un signe de respect. Donc vous voyez, la crainte, c'est une crainte respectueuse. On craint quelqu'un qu'on respecte, d'accord ? On ne va pas lui dire n'importe quoi. Eh bien, c'est la même chose ici. Et moi, je vois un lien entre cette crainte et les miracles. Pour moi, le lien, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, pour authentifier la parole de ces apôtres, qui étaient finalement des gens socialement inconnus, qui n'avaient peu d'influence, peu d'instruction, et donc peu de crédibilité, disons-le, eh bien pour crédibiliser le message, Dieu faisait des miracles au travers de cette révélation. Je vous lis Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Écoutez bien, « Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur » nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui c'est qui avait entendu ? Les apôtres. On est d'accord ? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Il y a plusieurs choses ici, mais vous voyez que le message a été appuyé par des miracles. Et c'est pour ça qu'on voit les apôtres qui font des miracles. Moi, je me dis, quelle démonstration de puissance. Juste la semaine prochaine, enfin, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, on va aborder le chapitre 3. Et là, on a la démonstration du message. Il prêche sur la divinité de Jésus, et tout de suite derrière, la preuve de la divinité de Jésus, c'est qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit à un paralytique, « Lève-toi et marche », et le gars, il se lève et il saute d'un bond et il loue le Seigneur. Et vous voyez, c'est dire, Dieu est tout puissant, il peut faire des miracles, et derrière, tac, il y a un miracle, et là on est bluffé. Eh bien c'était ce qui se passait à cette époque-là. Et donc, ben, les miracles, les amis, ça amène de la crainte et du respect, parce qu'on dit, waouh, quand il dit des choses, ça se passe instantanément. Quand on va arriver au chapitre 5, quand on essayait, enfin, des personnes qui s'appellent Ananias et Saphira avaient prétendu avoir vendu toute leur maison. En fait, ils avaient gardé un peu d'argent de côté, mais personne ne leur avait interdit de le faire. Ils étaient totalement mis de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont donc menti au Saint-Esprit en mentant à un apôtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tac! Vous avez menti au Saint-Esprit, votre âme vous sera redemandée aujourd'hui même, et les deux sont morts. Je peux vous dire que si ça se passait ici dans l'église, il y aurait une grande crainte qui va s'installer. Et c'était cette crainte-là qu'il y avait. Parce qu'on ne rigolait pas avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle était enseignée. Et c'est pour ça qu'on la respectait et qu'on se levait. Allez, je passe au deuxième point. On va aller un peu plus vite sur les autres. Pas le deuxième, mais sur les deux derniers. Deuxième discipline qu'il faut mettre absolument en place dans la vie d'un jeune converti, et donc dans la vôtre, c'est la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Je ne sais pas, quand vous pensez à ce mot communion fraternelle, à quoi vous pensez? Personnellement, au début de ma vie chrétienne, moi j'avais associé la communion fraternelle à tous les moments sympas que je vivais avec les chrétiens. Hein, quand on discutait à la fin du culte, ou avant, quand on mangeait ensemble, quand on faisait des trucs sympas, des petites balades, etc. Alors, c'est pas faux de dire que la communion fraternelle, il y a des moments conviviaux. Effectivement, ça fait partie de la vie et de la communion fraternelle. Regardez au verset 46. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Donc, on voit qu'ils étaient ensemble et qu'ils mangeaient ensemble. Et là, c'est, j'ai dit, le descriptif de tout ce qu'il va résumer dans le verset 42. Donc, on voit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, et elle est décrite en dessous, ici. Donc, le fait de manger ensemble, de rompre le pain, de prendre notre nourriture avec joie, fait partie intégrante de la communion fraternelle. Vous savez qu'à l'EIG, vous pouvez aller sur notre site, vous verrez ces deux photos. Donc, Irène, c'est toi qui es sur la photo, et Quentin. Quentin, tu t'es reconnu. En fait, on fait des repas fraternels et pour nous c'est important. Alors vous connaissez ici, et c'est une tradition qui est une bonne tradition encore une fois, ce sont les repas fraternels qu'on appelle les repas canadiens. D'accord ? Donc chacun vient et on partage tout ça. Mais on a aussi les barbecues d'été. Et nous on a mis en place, alors ce n'est pas les barbecues d'hiver, mais vous irez voir, ça s'appelle les raclettes parties ou les fondues parties, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est les repas d'hiver. D'accord ? Parce qu'on ne veut pas que, parce que c'est l'hiver, eh bien on ne fasse plus de barbecue d'été, donc on les fait à l'intérieur, alors dans le cadre sanitaire qui est autorisé, on est d'accord. Mais on le fait, les amis. Et donc, je pense que si vous êtes dans cette église depuis au moins un an, vous avez obligatoirement mangé chez quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, alors c'est soit que vous partez trop vite à la fin du culte et qu'on n'a pas eu le temps, mais mes amis, c'est fondamental. L'accueil fait partie, et l'invitation à la maison, l'hospitalité, font partie intégrante de la communion fraternelle. Mais ce n'est pas la seule chose, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien, là, il nous faut regarder d'un peu plus près ce que signifie le mot communion fraternelle. En grec, c'est le mot koinonia, d'accord ? Et ça signifie partenaire, partenariat, d'accord ? Donc quand on est converti, quand on adopte le royaume, quand on rentre dans le royaume de Jésus, d'accord ? Il devient notre roi, d'accord ? Donc on vient dans son royaume, c'est pas lui qui vient dans le nôtre. Hein, petite précision quand vous annoncez l'évangile, c'est Dieu qui nous accepte dans son royaume, on vient dans le sien, donc c'est ses règles à lui qu'on va appliquer. On ne demande pas à Jésus de venir dans notre cœur pour essayer de s'arranger avec les petites bricoles qu'on a fait. Non, on arrive dans son royaume, il nous transporte du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, donc là on est dans un autre royaume. Donc Jésus nous adopte dans son royaume avec ses propres règles. Si on fait tout ça, eh bien, on devient partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on a le même Dieu, le même Seigneur, le même Sauveur, la même mission, les mêmes objectifs. Toutes ces choses nous unissent et font qu'on devient partenaire. On est dans la même équipe, les amis. L'Église, c'est une équipe. On est en partenariat les uns avec les autres et on tire tous dans la même direction. En tout cas, c'est ce que la Bible nous encourage à faire. Hein ? Rappelez-vous, dans Philippiens, l'unité est fondamentale parce qu'on a un combat à mener, c'est de faire des disciples parmi toutes les nations, de les baptiser et de leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Ça, c'est notre mission principale. On est tous d'accord là-dessus, mais il faut qu'on s'unisse et qu'on unisse nos forces pour arriver à l'atteindre. Vous savez, il y a des partenariats qui sont relativement faciles, sans grand risque. Vous en connaissez un ici, c'est un Suisse. C'était un des meilleurs joueurs mondiaux, je crois qu'il est numéro 2, c'est Federer, ou numéro 3 peut-être, parce qu'il commence à vieillir quand même, il a été plusieurs fois numéro 1 mondial. Eh bien, quand on est en double, eh bien, on a un partenaire, et on ne prend pas de grands risques. Lui, il risque quoi ? De perdre un match. Il y a des partenariats comme ça, qui sont simples. Eh bien, quand on mange ensemble, les amis, c'est génial. Ça, c'est ce genre de partenariat. Ça n'engage pas à grand-chose, c'est des choses qui sont agréables, on va jouer ensemble. On gagne, yes, on perd, c'est pas grave, on boira un coup quand même. Vous voyez ? Donc, ça fait partie des partenariats simples. Mais il y en a qui sont plus engagés, on va dire. Si vous êtes copilote d'une voiture et que vous vous plantez dans la lecture, hein, les voitures de rallye roulent à 200 km/h sur des routes de campagne. Donc, vous imaginez que si le gars dit virage à droite alors qu'il fallait lire la ligne du dessus, virage à gauche, il y a deux morts. Et en fait, il y a des partenariats qui engagent notre vie. Et la communion fraternelle, c'est les deux, en fait. Il y a des partenariats simples, agréables, et il y en a d'autres qui le sont moins. Et c'est pour ça, c'est pour les engagements les plus difficiles qu'on doit persévérer dans la communion fraternelle. C'est ça, en fait. Parce qu'on se dit, persévérer dans la communion fraternelle, mais c'est normal, c'est naturel, c'est mon frère et ma sœur. Oui, sauf qu'il y a des règles. Et vous savez que les apôtres et Jésus en ont glissé plein dans la Bible. Et ils ne nous ont pas tout donné. Et Jésus, d'ailleurs, n'a pas donné un manuel d'explication, un manuel ecclésiologique, comment on doit se comporter dans l'Église. Lui, il a laissé le soin aux apôtres de le faire. Par contre, il a dit à maintes reprises, et il l'a martelé, le fait de devoir s'aimer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que l'amour des uns envers les autres est la démonstration puissante de l'Évangile. Je vous lis Jean 13. Je ne pense pas que je l'ai mis ici. Si. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je disais que Dieu ne nous a pas donné un manuel ecclésiologique, ni un livre pour faire de l'évangélisation. Où est-ce qu'il insiste ici ? Regardez trois fois la même expression les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est clair ? C'est ça la communion fraternelle. Et pourquoi on doit s'aimer les uns les autres ? Regardez le but. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors cet amour, ça, il y a les repas fraternels, certes, c'est super. Et là, c'est un partenariat facile. Mais si on va un petit peu plus loin dans Jean 14, on va découvrir que l'amour, il peut aller loin, en fait. Aimer, parce qu'après il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il le dit ici, mais il le répète, et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, il y a un partenariat, ce que je disais, facile, mais il y en a un autre qui nous engage, et où on va donner notre vie. On donne notre vie. Et en fait, c'est ce partenariat-là que les premiers disciples ont vécu ensemble. Versets 44 et 46. Voilà l'expression ultime de la communion fraternelle. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On a dit qu'on n'appliquait pas un texte narratif à la lettre. Et je ne vais pas faire une entorse à cette règle. Pourquoi ? Parce que Karl Marx a pris comme base ce texte-là pour mettre en place le communisme. On a vu ce que ça a donné. Quand on impose la solidarité aux gens, eh bien ça donne ce que ça a donné dans le communisme. On n'est pas fait pour ça. Et ce n'est pas du tout le communisme qui est ici en place. Pourquoi ? Parce que les gens étaient volontaires. Les chrétiens l'ont fait de bon cœur. Okay ? Et c'est toute la différence. Si on impose la solidarité à tout le monde, alors là, on va le faire par contrainte et ça n'ira pas loin et ça va faire des dégâts. Alors que là, elle est faite volontairement. Ils ont vu les besoins et le Saint-Esprit leur a donné cette sensibilité en disant « Mais on ne peut pas laisser choir nos frères et sœurs qui sont là. Ils sont de passage, mais apparemment, ils veulent rester. Ils sont là tous les jours au temple avec nous. Qu'est-ce qu'on fait ?» Wow, on va les laisser, ils dormiront dehors, il ne fait pas très froid en ce moment. Ben non. Oh, ils mangeront bien une fois par semaine, ça leur ira. Il y en a qui ont eu moins que ça. Ben non, ce n'est pas le réflexe qu'ont eu ces chrétiens. En fait, il y a des gens qui avaient de l'argent là-dedans. Effectivement, dans les évangéliques, dans les chrétiens, quand on regarde la vie de Jésus, il était souvent chez Marthe et Marie, si vous repérez. Et quand elle accueillait pas seulement Jésus, des fois, il y a les 12 disciples qui débarquent avec des copains, donc une équipe de foot ou de rugby qui débarque à la maison et que vous êtes capable de les accueillir. Les amis, il faut avoir les reins solides quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu 12 ados d'un coup, un groupe de jeunes qui débarquent à la maison, vous avez intérêt à avoir des pâtes dans des petites réserves et des gâteaux et puis tout le reste. Bah, parce que ça mange, ces bêtes-là. Eh bien, Marthe et Marie, elles accueillaient sans problème. On voit aussi l'apôtre Pierre. On voit qu'il y a des gens, Lydie, la marchande de pourpre, elle avait de l'argent. Il y a des gens qui avaient de l'argent et qui prenaient soin les uns des autres. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont tout mis en commun. Certains vendaient leurs biens et leurs possessions. Bien, vous avez 3000 personnes qui débarquent demain à Genève. Les amis, s'il y a des choses qui ne nous servent pas trop ou des choses qui sont prioritaire, eh ben on va vendre, on vend notre voiture, on va vendre peut-être un bien. Mais est-ce qu'on vend tout ? Vous savez pourquoi je dis non ? Ben parce que le texte le dit en fait. Tous ensemble, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, il y avait tout en commun. Ok, ils vendaient leurs biens, il ne dit pas qu'ils vendaient tous leurs biens, et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins. Donc ils ont répondu à un besoin. Il n'y a pas de besoin ? Donc il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses. Quand il y a un besoin, on se plie en quatre et on laisse le Saint-Esprit nous interpeller. Vous savez que moi, ça nous arrivait souvent avec mon épouse, on entend une situation délicate et nous, chacun de notre côté, on prie et puis il y en a un qui vient vers l'autre qui dit « Chérie, ça ne te dirait pas qu'on les aide ?» Puis on se regarde, « Bah ouais, c'est marrant, j'y pensais aussi. Combien tu leur donnerais ?» Puis moi, je dis « Allez, 300. » Non, moi je pensais à 300 aussi. Et tac, et donc on fait un chèque et on donne ce chèque à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Ça m'est arrivé à moi aussi de recevoir de l'argent comme ça, dans cette Bible d'ailleurs. C'est une Bible géniale. Je faisais mes études à l'IBG et puis ce mois-là, j'avais justement fait un don à quelqu'un et j'avais plus rien. Mais je l'avais fait volontairement, personne ne m'y a forcé. J'avais donné conseil à une sœur qui était aussi étudiante en première année. Moi, j'étais en deuxième, j'étais un grand frère. Hein, oui. Puis, je la vois, puis je discute avec elle. Elle me dit, « Ah, mais tu sais, en ce moment, je suis fatigué. » Puis effectivement, je la vois avec des cernes et tout. Elle me dit, « Bah, écoute, je travaille la journée à l'IBG et puis le soir, je vais au McDo pour avoir de l'argent pour rembourser mes frais d'école. » Je lui dis, « Mais tu ne vas pas profiter de ton année. C'est les meilleurs mois de l'année qui sont là. » Puis je rentre dans ma chambre et puis là, le Saint-Esprit, « Tac !» Il m'interpelle et puis je me dis, mais attends, mais c'est trop facile ce que tu lui as dit. Tu lui dis de ne pas travailler, qu'elle ne va pas profiter de son année, mais tu ne lui donnes pas de solution. Et donc là, je décide, je fais un chèque, et je dis, tant pis, le Seigneur va pourvoir. Je lui fais ce chèque, je lui donne. Et donc ça, c'était au début du séjour. À la fin du séjour, on restait 3 semaines en général. Je ne sais pas pourquoi, on s'en va, et je prends ma Bible comme ça, je l'ouvre. Et là, je vois un billet vert. Je n'avais jamais vu de billet vert, parce que c'est des gros billets. Un billet de 200 balles, comme ça, dans ma Bible. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce billet? Mais il ne s'est pas perdu tout seul. C'est bien quelqu'un qui l'a mis aussi. Et vous voyez, le Seigneur, il a pourvu à mes besoins parce que j'ai pourvu à ceux des autres. Et ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Le Seigneur nous met à cœur parfois de soutenir une situation. Donc on est libre. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas appliquer à la lettre et tout vendre vos maisons si vous en avez une? Pourquoi je dis ça? Parce que regardez la suite. Le texte est clair. Où est-ce qu'ils rompaient, à votre avis, le pain et ils mangeaient leur repas? Ok, s'ils avaient vendu tous leur maison, où est-ce qu'ils le feraient? Dans la rue? Dans une tente? On est d'accord. Donc si ils vivaient la communion fraternelle dans les maisons, c'est qu'ils en avaient encore. Donc ceux qui ont vendu la leur, eh bien soit ils en avaient plusieurs, soit eux en avaient plus, et puis d'autres ont pourvu. Ou ils étaient en location, j'en sais rien. Mais voyez, il ne faut pas tomber dans l'absolutisme ici. Et pourtant, le texte est clair. Mais le texte est clair sur une chose, c'est qu'on doit prendre soin les uns des autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les premiers chrétiens ont pourvu aux besoins. Regardez, besoins matériels. D'accord ? Ils ont vendu leurs biens parce qu'ils avaient besoin de manger et de se loger. 3000 personnes qui débarquent, on ne peut pas les avoir dans notre salon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il fallait se répartir les tâches. Et donc, il y avait des besoins, ils ont répondu aux besoins matériels, mais aussi aux besoins relationnels. Ils ont mangé ensemble. L'accueil, parce que ce n'est pas simplement « je te donne un billet », mais « je t'accueille à la maison, je te montre que je t'aime comme ça ». Quand on accueille les gens chez nous, mes amis, c'est une manifestation de la communion fraternelle. Et là, c'est un besoin relationnel. Les humains n'ont pas besoin simplement de billets, de banques. Ils ont besoin de relations. Et puis ensuite, le côté spirituel, eh bien, ils les ont accueillis dans les maisons, bien sûr, mais aussi au temple. Et ils venaient avec eux. Donc ils leur ont partagé leur vie, en fait. Et ils ont répondu aux besoins de ces premiers convertis. Allez, on va passer au quatrième point. Je ne sais pas du tout l'heure, je ne sais pas quand j'ai commencé, mais il me semble que c'est très tard là, hein, c'est ça? On va s'arrêter là, non? Je ne sais pas. Vous dormez ou pas encore? On est à combien de temps là? Je vais arrêter là. Je pense que c'est bien d'arrêter ici. Et donc du coup, je vais sauter la fraction du pain et la prière, on verra ça une autre fois. On est au temps des bonnes résolutions, les amis. On a dit que c'était des choses essentielles. Puis finalement, les deux derniers points, on ne peut plus les faire à cause du Covid. La fraction du pain, donc c'est la Sainte Cène. Par contre, ce qu'on peut faire, on ne peut plus faire ensemble, on va dire. Et les prières, on le fait dans les Zooms. On reviendra sur ces questions-là parce que je pense que c'est important. Mais en tout cas, on a vu deux choses essentielles. Et donc, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu persévères déjà dans ces deux choses minimum? Vous voyez? Est-ce que quand tu vas regarder ton application, est-ce que tu es prêt à avoir une surprise? Parce qu'en fait, je m'aperçois que dans ma propre vie, je n'ai pas toujours les bonnes priorités. Et donc ce matin, c'est le bon moment de remettre les choses, de remettre l'église au centre du village, comme on dit, de remettre les bonnes priorités au bon endroit. Parole de Dieu, d'accord ? Et honnêtement, si tu manques de discipline, parce qu'on n'est pas tous câblés de la même manière, parce qu'on n'a pas tous eu la même éducation. Moi, je pense à ces jeunes qui n'ont pas été cadrés, en fait, qui n'ont pas eu de discipline. Quand vous arrivez en tant qu'adulte dans l'église, vous ne savez pas faire non plus. Et on a beau vous dire, il faut que tu lises la Bible, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça. Donc, vous avez besoin des autres. On peut mettre en place ce qu'on appelle des groupes de croissance. Des groupes de croissance, c'est 2 ou 3 chrétiens qui s'encouragent à lire la parole, à prier ensemble, voyez, à faire ces disciplines de base, à témoigner de l'évangile. Vous voyez, ce sont des choses qui sont toutes simples à mettre en place. On n'est pas obligé d'être tous ensemble, mais on peut le faire facilement. Ça fait partie des choses que j'aimerais mettre en place. Tout est déjà préfait sur le site web. Si vous voulez aller voir l'organisation de l'Église, comme elle devrait fonctionner sans le Covid, ben c'est décrit. Allez-y. Allez sur le site, regardez, activité, vous allez voir, petit groupe. Et dans petit groupe, il est décliné, les groupes de maison. Malheureusement, on ne peut toujours pas le faire. Mais il y a aussi les groupes de croissance, et j'explique, et je peux vous l'expliquer, et on l'expliquera et on le vivra, j'espère, ensemble un jour. Vous n'êtes peut-être pas habitué, vous ne connaissez peut-être pas ce mode de fonctionnement, mais je pense que c'est essentiel. Surtout en temps de Covid, on voit que les petits groupes sont beaucoup plus forts finalement que les grands groupes, parce qu'on n'a plus le droit de se rassembler. Et encore aujourd'hui, on est 50, mais des fois, si on est dans une petite salle, ça sera plus compliqué. Donc moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est maintenant, on va prier, si vous le voulez bien, et demander au Seigneur si vous avez été interpellé, parce que c'est peut-être le cas, est-ce que tu dois remettre les bonnes priorités à leur place ? Est-ce que c'est la prière ? Est-ce que tu pries plus ? Est-ce que tu as du mal avec ça ? Est-ce que c'est la lecture de la Bible ? La communion fraternelle ? En fait, tu t'en fiches des autres, quoi. Tu penses à ton petit nombril et puis les autres. Ça peut être ça. On a tellement de tentations autour de nous. Puis il y a le diable, puis notre propre chair. Donc on est en lutte permanente et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Donc on est là pour s'aider les uns les autres et c'est pour ça qu'on va demander au Seigneur de nous aider.